9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS à votre santé, à votre très bonne santé jusqu'à 10h sur Beurre FM avec aujourd'hui Karima Chadibaou. Comment ça va Karima?
Bonjour Philippe, bonjour les auditeurs, ça va très bien.
Coach familial, voilà. Parental, cofondatrice de votre école de naturopathie, l'ENAT. Maintenant.
Oui, l'ENAT, qui a démarré toutes ses activités, le praticien en relation d'aide et les naturopathes. Donc deux promotions, deux belles promotions avec lesquelles on est prêt pour l'exploration, on est prêt pour la découverte et on est prêt pour l'épanouissement.
Vous dansez même maintenant, l'ENAT, me dit-on.
On danse en fait, c'est pas la danse.
On fait de la danse de quoi
alors, la danse, j'en parlais tout à l'heure, la danse des cinq rythmes de Gabrielle Roth. Donc c'est une grande dame, une américaine en fait, qui a beaucoup voyagé et qui a modélisé en fait les danses de trance, et notamment pour aller découvrir un petit peu tout notre côté obscur et notre côté, aussi bien le côté obscur et aussi le côté lumineux, et donc à travers cinq rythmes qui suivent le mouvement de la vague.
D'accord.
Voilà.
Et donc, quand on est au sommet de la vague,
voilà, on est au niveau du staccato, c'est-à-dire le mouvement saccadé. On commence avec le mouvement fluide, ensuite on arrive au staccato, comme la vague. Puis la vague se casse, donc c'est le rouleau, c'est le chaos. Puis ensuite le lyrique, le mouvement lyrique, et enfin le dernier, la quiétude. Et donc les personnes traversent, font un voyage à travers elles-mêmes et avec le corps. Donc du coup, le mental ne peut pas nous raconter n'importe quoi. Et justement, beaucoup de personnes en fait règlent beaucoup de problèmes à travers cette danse, à travers ces mouvements. Et franchement, on fera une démonstration si vous voulez un jour.
Surtout
Philippe.
Vous. Je le regarderai et puis après vous m'aiderez.
Non, vous allez le faire, vous allez le pratiquer aussi, vous allez voir.
Si mon voisin vient avec moi.
Voilà. Oui, Nabil, oui.
Libérez vos corps.
Exactement. Oh. Se libérer des entraves du corps et puis aussi nos conditionnements psychiques. Parce que quand on se libère avec le corps, après au niveau psychique et au niveau mental, c'est plus facile, on va dire.
Leïla Tonin est avec nous. Bonjour Leïla.
Bonjour tout le monde, bonjour Philippe, bonjour la team Beurre FM.
Voilà.
C'est un plaisir et un honneur de se retrouver parmi vous.
Plaisir partagé, vous êtes psychopraticienne. Et puis Mario Viana est avec nous. Bonjour Mario.
Bonjour Philippe. Bonjour
praticien bonjour en Philippe. Neurofeedback. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, moi je ne connaissais pas, mais ce n'est pas nouveau le neurofeedback, Mario.
Ça fait quand même quelques années que ça existe, oui. Effectivement, ça existe depuis les années 80 à peu près.
D'accord. Comment est-ce que vous l'avez découvert?
Alors, je l'ai découvert en faisant un documentaire sur ce film, que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis mis en situation. Et là, j'ai découvert effectivement une méthode qui permet d'améliorer énormément la vie quotidienne.
D'accord. Alors, se mettre en situation, c'est le tester sur vous-même.
Le tester sur moi-même, tout en faisant ce documentaire.
D'accord. Alors, comment est-ce que vous l'avez testé sur vous-même?
Donc, testé sur moi-même, c'est-à-dire que je suis arrivé donc avec un problème que je disais à l'époque, je ne dormais pas. Je prenais des médicaments pour dormir toutes les nuits, ça faisait à peu près 20 ans. Et donc, la praticienne qui faisait ce protocole s'appelle Karine, m'a fait le protocole qui dure 30 minutes. 33 minutes.
33, précis. Il faut être précis. Minutes. C'est 33 précis. Minutes.
C'est 33 ouais. minutes. À l'époque, c'était même 33 minutes 30, pour être tout à fait précis. Et où vous n'avez rien à faire, vous avez juste à écouter une musique ou à regarder un film, à votre choix. Et c'est tout. Et au bout de 33 minutes, je suis arrivé chez moi et je commençais à dormir d'une façon tout à fait normale, comme tout le monde. Aussi bien et aussi mal que monsieur tout le monde. C'est-à-dire que je me couche et en général, je dors.
D'accord. Et depuis, vous dormez?
Et depuis,
faites vos nuits. Bébé fait ses nuits.
Le bébé fait tout à fait ses nuits. Et est très content de faire ses nuits.
Alors, là, on parle de protocole, mais alors déjà, à quel type de thérapie cela appartient-il, Leïla?
Le neurofeedback comportemental et cognitif, on peut parler de TCC.
On peut parler de TCC, oui.
Oui, de neurothérapie, en fait, de neurothérapie.
Donc, alors, neurothérapie, ça veut dire une thérapie du cerveau?
Oui. Oui, alors personnellement, moi j'ai rencontré Mario Viana et je ne connaissais pas du tout le neurofeedback. Il m'a présenté le neurofeedback et travaillant moi-même donc en thérapie, j'accompagne les personnes en difficulté. Et j'ai voulu le tester donc sur moi-même aussi avant d'envoyer les gens vers Mario. Alors j'ai fait 5 séances et au bout de 5 séances, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire que je n'avais pas remarqué en fait. Un jour, je me suis griffée. Et Leïla, elle s'est toujours rongé les ongles depuis.
Vous vous êtes griffée.
Oui, comme ça, je me suis griffée, je ne m'en suis pas rendu compte.
Ah oui, non, c'était pas intentionnel.
Non, pardon, oui, quand même. Et du coup, j'ai réalisé que mes ongles avaient poussé. et je m'en étais pas rendu compte. Donc le neurofeedback a permis à réparer quelque chose, quoi, j'en sais rien, c'est pas plus mal des fois de pas savoir. Mmh. Et du coup Leïla, elle profite aussi maintenant de ses ongles et j'ai les ongles, je peux avoir les ongles là.
Et donc l'effet c'est que vous ne vous êtes plus rongé les ongles.
Voilà. Non, et en fait, et de, pour co-construire avec ce que dit Leïla, c'est que en fait le changement arrive tellement d'une manière naturelle et j'ai envie même de dire d'une manière organique. D'accord, parce qu'on travaille donc sur le cerveau, on travaille avec le cerveau sur les ondes électromagnétiques, et donc du coup, la personne va aller chercher elle-même en fait les ressources au fond d'elle, parce qu'on va se synchroniser, si j'ai bien compris Mario, hein, on se synchronise en fait sur son cerveau, sur les ondes que diffuse le cerveau, d'accord, et donc la personne va pouvoir aller chercher elle-même, et elle s'en rend pas compte. C'est ça qui est génial dans cette neurothérapie, c'est que il y a pas d'effort comme quand par exemple quand on fait une psychanalyse ou quand on fait par exemple une thérapie ou dans laquelle par exemple la thérapie avec les émotions par exemple où on doit faire émerger en fait ces émotions et qui peuvent être source de souffrance, là ça se fait naturellement. Leïla l'a dit, elle s'en est pas rendue compte, elle s'est griffée. Alors que Leïla, je la connais depuis très longtemps, Leïla c'est toujours ronger les ongles. Oui. Du coup il va falloir changer ça, ce toujours, ce n'est plus toujours. Et le jour où j'ai vu Leïla avec une manucure et avec du vernis, je dis il s'est passé un truc là. Ouais. Et elle me dit écoute, j'ai fait du neurofeedback, c'est juste incroyable. Ouais. Donc, pas d'effort, pas de, le changement intervient comme ça.
Tout à fait. C'est-à-dire que le changement intervient naturellement. Quand vous dites qu'on travaille avec le cerveau, non. Le client, la personne, ne travaille pas. À la limite, si on s'endort, c'est aussi bien.
Oui.
Il n'y a aucun effort à faire, c'est tout à fait naturel. En fait, c'est le cerveau qui s'organise tout seul. Mm. Nous on n'a aucun moyen de contrôler ce qui se passe. Le cerveau s'organise tout seul. Parce qu'on considère que le cerveau, il sait ce qui est bon pour lui.
D'accord.
Donc, effectivement, le pas dormir, c'est pas top. Se ranger les ongles, ça peut s'apparenter à un TOC
ou un stress
ou quelque chose comme ça. Le cerveau se autorégule naturellement.
Mais il y a quand même, Mario, un protocole. C'est-à-dire que quand on dit on travaille pas sur IA, il y a quand même une intention derrière, il y a quelque chose.
Aucune intention, rien
du tout. D'accord.
On est passif.
Totalement passif. Mmh. Là, hier, on parlait tout à l'heure, j'ai eu une cliente, c'est la deuxième fois que j'ai une cliente de 5 mois. Donc, on ne peut pas dire qu'une cliente de 5 mois soit active.
Un bébé, donc, de 5 mois, d'accord, un nourrisson.
Oui, une cliente
d'accord.
De 5 mois.
Ah oui, d'accord.
Et dans ces cas-là, la personne, le bébé de 5 mois, il vient pourquoi ? Pour quelle pathologie ?
Alors, pour n'importe quelle pathologie, dans les deux cas précis, donc la première, c'était une petite fille qui avait un problème de sommeil, c'est-à-dire qu'elle était totalement déréglée depuis la naissance, et elle ne dormait pas du tout la nuit. Et d'accord. Donc, c'était un problème dramatique. Mmh. Elle est venue faire des séances, la première séance, elle a commencé à aller un petit peu mieux, et au bout de 3 ou 4 séances, la petite fille s'est auto-régulée, donc elle dort comme tous les bébés, la nuit, et puis des fois, il y a des petites crises, mais voilà, c'est bien normal.
D'accord. Alors, d'accord. Mario, neurofeedback. Neuro, c'est pour...
Sur les neurones.
D'accord. Et feedback ?
Les feedbacks, c'est le retour de l'information que la machine... En fait, il y a deux capteurs qui
donc
sont...
Donc, il y a une machine.
Il y a une machine.
D'accord.
Donc, c'est deux capteurs qu'on place sur la tête et deux sur les oreilles, mais bon, voilà, c'est surtout les deux capteurs qu'on place sur la tête. Quel que soit le problème du client qui vient, ces capteurs sont placés toujours au même endroit. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de diagnostic.
D'accord.
Et on ne fait pas... Voilà, il n'y a aucun diagnostic. Quel que soit le client, il vient... J'ai eu un client même qui est venu une fois en disant « Je viens vous voir parce que je sais que je n'ai pas besoin de parler, parce que j'ai fait une psychothérapie, j'ai fait une psychanalyse, j'ai fait je ne sais pas quoi.
Ouais.
J'en ai marre de raconter ma vie. Et donc, je viens vous voir parce que je n'ai plus envie de parler.
Bah, » C'est ça qui est génial.
Et je lui ai dit « Vous êtes juste obligé de me dire bonjour et au revoir, ça va ?» Il m'a dit « Ça me va très bien. » Il a fait, il me semble, 12 ou 13 séances, je ne me rappelle plus exactement. Et à la dernière séance, il me fait « Bah écoutez, c'est la dernière fois que je viens vous voir parce que j'ai résolu mon problème. » Quel était son problème ? Je ne sais pas.
D'accord.
Ça m'intéresse.
Ouais, donc ça, c'est, oui, c'est pas...
Pas forcément savoir. Si je veux faire un travail après de psychothérapie derrière, oui, parce qu'on peut travailler en neurofeedback et faire un accompagnement psychothérapeutique.
C'est complémentaire, c'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà.
Mais sinon, non, le bébé de 5 mois, il ne parle pas. Et hier, la petite fille était très excitée. Au bout de 5-7 minutes, elle s'est assoupie, elle s'est endormie, elle a fait les 33 minutes en dormant. À la fin, elle s'est réveillée et puis voilà. Quoi. Et puis on va continuer comme ça.
Mmh. Alors, donc, vous avez parlé de quatre électrodes, deux qu'on met sous la tête.
Capteurs.
Alors, c'est des capteurs qu'on fixe sur le...
C'est des capteurs qu'on fixe en haut du crâne, à un endroit bien précis, sur le cuir chevelu, avec une petite pommade pour que ça adhère, mmh. et deux sur les oreilles, et la machine, on lance le protocole, et la machine va analyser 256 fois par seconde la fréquence électrique du cerveau, ce qui veut dire que dès qu'on lance le protocole, la machine sait quelle est votre fréquence à vous, qui est une fréquence propre, comme une empreinte digitale, on va dire, en gros, pour faire simple. Et donc, la machine analyse cette fréquence électrique. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, peu importe quoi, la machine fait le feedback, c'est-à-dire qu'elle va faire une interruption du son que vous êtes en train d'écouter, fait une interruption de demi-seconde. Donc, à la limite, on n'entend pas l'interruption. Mais le cerveau, lui, il l'entend, et ça, ça lui fait le feedback pour dire, là, tu n'es pas en train de faire juste ce que tu devais faire. Peu importe quoi. On ne cherche pas à savoir. Mais le cerveau, il se réorganise en fonction de ces coupures de son.
Donc là, vous parlez de capteurs. Donc, est-ce qu'il y a des émetteurs ou c'est que des capteurs?
Que des capteurs. Il n'y a rien d'intrusif. Il y a absolument.
C'est pas des ondes qu'on va vous mettre dans la tête ou dans le cerveau. Non.
C'est absolument. C'est une des seules méthodes qui est vraiment non intrusive parce que il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas de manipulation, il n'y a rien. C'est juste les capteurs récupèrent l'information du cerveau, la fréquence, et juste la coupure de son. On peut dire que c'est intrusif, c'est une coupure de son. Voilà.
Parce que ça passe, excuse-moi Mario, ça passe par le canal auditif, justement. Donc, soit on regarde un film ou on écoute un son, une musique, par exemple.
Ou on s'endort,
mais le son, il tourne.
Il continue.
Quand tu t'endors.
Oui.
Il y a forcément un son. Et toutes ces micro-coupures, toutes ces petites coupures, donc plus il y a de coupures, plus il y a des turbulences cérébrales, ça veut dire.
On peut dire ça, mais il y a toujours, en fait, si vous voulez, on a tous des turbulences. On n'appelle plus ça des turbulences, on a un autre nom, plus barbare encore. Mais en fait, si vous voulez, on a tous des problèmes, sauf qu'on n'est pas censé les savoir forcément. Par exemple, moi, si mon problème, c'est de me balader en haut des tours de Manhattan sur un fil, etc., et que peut-être j'aurais très peur, mais comme je ne suis jamais allé me balader en haut d'un fil, je ne sais pas que j'ai ce problème-là, par exemple. Donc, nous avons tous ces problèmes. Certains sont très visibles, d'autres sont invisibles. Moi, j'ai un problème d'écriture parce que je fais des fautes d'orthographe, parce que je suis dysgraphique. Depuis que j'ai fait de nouveaux feedbacks, j'en suis moins dysgraphique, mais j'en suis toujours. Mais je suis moins. Vous voyez, ça résout des problèmes, peu importe quel problème.
Et là, c'est le cerveau de lui-même donc, qui va, comme vous avez dit, auto-réguler. Et donc, à un moment donné, il va lui-même trouver la solution de ce qui se répare tout seul.
Il trouve la solution tout seul.
C'est ça, auto-réparation, auto-régulation. Tout seul.
Nous on n'intervient pas pour dire, tiens, tu dois faire ci, ou tu dois apprendre ça, ou on doit cibler telle zone du cerveau, puisqu'il existe... Un autre protocole qui est le feedback.
C'est ce que j'avais vu, ça. Voilà. J'avais vu ce protocole. Là, on pose en fonction de l'endroit du cerveau.
Parce qu'on fait un diagnostic. Donc, à partir de là, on pose les capteurs à un endroit précis et on demande à la personne d'être actif pour pouvoir faire fonctionner le protocole. Donc, ce biofeedback qui est très efficace pour certaines choses, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il ne peut pas être utilisé pour les femmes enceintes, il ne peut pas être utilisé pour les petits-enfants, il ne peut pas être utilisé pour les épileptiques, il ne peut pas être utilisé...
Donc il y a pas mal de contre-indications là.
Il y a beaucoup de contre-indications.
D'accord, dans celui-là.
Le neurofeedback dynamique, donc le neuro-optimal, c'est le protocole que nous utilisons, lui, il s'adapte à tout le monde. Puisqu'on n'intervient pas dans le cerveau. Le biofeedback est fait en centre hospitalier, soit hôpital, soit clinique, soit enfin centre médicalisé.
D'accord. Mmh. Mais c'est très peu connu aussi.
Qui est très peu connu.
C'est très marginal.
Il y a deux hôpitaux dans Paris qui le font, et puis en province, je crois, il y a aussi deux ou trois hôpitaux qui le font. Mmh. C'est très peu. Mais par exemple, moi, je travaille avec des personnes épileptiques. Le biofeedback ne pourrait pas vraiment pas être utilisé pour les personnes épileptiques.
Pourquoi ça stimulerait une crise?
Ça déclencherait une crise. Parce que le biofeedback demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention de la part de la personne. Elle doit être très, très, très. En fait, elle participe énormément.
D'accord.
Le neurofeedback, comme on dit, si la personne s'endort, c'est encore mieux.
Oui, elle est plutôt passive, en fait.
Totalement,
du coup, le travail se fait d'une manière très, très naturelle, comme on l'a dit, et du coup, c'est sûr que c'est beaucoup plus...
Par exemple, nous, on utilise le neurofeedback pour les enfants autistes, qui est quelque chose qui est très efficace. Nous, dans le cabinet, on connaît un petit... On va pas dire son nom, mais on connaît...
Transformation radicale.
Voilà, sa maman était
donc autiste.
Autiste, Parkinson, Alzheimer, enfin, toute personne qui a un vrai souci et que le médicamental ne peut pas intervenir, puisqu'on demande quelque chose de participatif à la personne. Hein. Si vous faites une thérapie avec un enfant autiste, s'il ne parle pas, ça va être difficile. Le long feedback, il regarde son dessin animé, il est content, et puis voilà quoi.
Son cerveau travaille.
Ou il regarde autre chose, il regarde ce qu'il veut quoi.
Et Mario, comment vous avez évalué les changements sur le petit garçon justement autiste dont vous parlez? C'est quoi qu'on observe comme changement?
Changement qu'on a vu là.
Attendez, ce que je vous propose, on va faire une petite pause de publicité, comme on dit. On continue à parler de ce nouveau protocole, le neurofeedback ce matin. Si vous avez des questions, vous appelez le standard 01 53 48 3000 pour participer. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, notre cerveau est bien fait, hein, il est toujours prêt pour de nouvelles expériences et pour de nouveaux apprentissages et pour se réparer lui-même. On en parle aujourd'hui avec le neurofeedback. Alors, ce n'est pas vraiment nouveau, mais c'est vrai qu'on en parle assez peu. Karima Chadibaou est avec nous. Leïla Tona, qui est psychopraticienne et qui avait pratiqué le neurofeedback, est là. Oui. Et puis Mario Viana, qui est praticien en neurofeedback, est aussi là avec nous. Et vous pouvez prendre le temps de poser vos questions au 01 53 48 3000. En fait, le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau avec le neurofeedback, Mario?
Alors, on va dire, simplement, il y a des connexions qui se créent. On va dire ça. On ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau. Ça ne nous intéresse pas vraiment de savoir.
C'est pas ça qui est important.
C'est pas ça qui est important. L'important, c'est le résultat.
Oui.
La seule chose qui est importante aussi de le dire tout de suite, c'est qu'il n'y a absolument aucune contre-indication. Il ne peut pas y avoir de contre-indication. Donc ça, c'est très important.
Alors, on va prendre la question de Souila avant d'aller un petit peu plus loin. Souila qui attend. Souila, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour. Alors, moi, je connais le neurofeedback parce que mon enfant est hyperactif avec un trouble de l'attention. Donc, je l'ai fait pendant un an. Il y a eu de très, très bons résultats. Sauf que, entre-temps, malheureusement, mon mari est décédé, donc je ne pouvais pas continuer ces séances-là. Donc, le pédopsychiatre a décidé de le mettre sur Ritaline. Et ça a eu des effets très, très graves sur sa santé psychologique ou physique. Et du coup, justement, je cherche quelqu'un qui refait le neurofeedback parce que je ne veux plus lui donner de comprimés.
Déjà, celui-là, qui vous avez orienté vers le neurofeedback pour votre enfant?
Alors, c'est moi, j'ai commencé à chercher, à comprendre c'était quoi exactement ce diagnostic. Et j'ai trouvé à l'Institut Mentis, dans le 91, à Paray-la-Vieille-Poste, une neuropsychologue.
D'accord.
Donc, il a fait pendant toute une journée des tests. Donc, elle a vu qu'effectivement, elle avait un trouble de l'attention avec une hyperactivité impulsive et un QI supérieur à la moyenne qui n'est pas valide faute de le trouble d'attention.
Et donc, c'est une des indications, Leïla, déjà.
Oui, hein. Oui. Le neurofeedback s'applique très bien justement pour les enfants qui souffrent de troubles, de déficit de l'attention et d'hyperactivité. Je peux en témoigner car je suis à côté, comme le protocole neurofeedback est complémentaire avec la thérapie, avec laquelle j'accompagne les clients. Une petite fille de 10 ans, voilà, que nous avons vue ensemble et qui souffrait de TDAH et qui s'arrachait carrément les cheveux.
Oui,
quand partout.
Partout. Et donc, en complément avec ce que je faisais moi, le travail plus le neurofeedback, cette petite a pu arrêter. Elle a pu arrêter la Ritaline aussi.
Alors la question de Souila, c'est elle cherche justement quelqu'un qui pratiquerait. Vous êtes où, vous, Souila?
Alors, je suis dans le 91, mais sachez que je me déplace partout. Parce que, si vous voulez, cette année, c'était sa première année de 6e. Mais la directrice a décidé que, par faute de moyens et de la différence de mon enfant, elle ne pouvait pas le garder dans son établissement.
Oh non!
Donc, elle l'oriente vers un ITEP. Et comme je risque de perdre mon travail, parce que je ne peux pas laisser un enfant de 11 ans tout seul à la maison, donc autant être puis autant l'accompagner pour son bien-être. Parce que si vous voulez, la Rétaline l'a mis en dépression.
Oui. Ah oui, c'est clair.
Il s'est mis à découper des bouts de papier.
Oui.
Et là, on vient de lui donner un antidépresseur. Et à 11 ans, j'ai pas envie que mon fils
soit
dépressif.
Ben oui. Non, vous avez raison, Souéla. Non, Souéla, tenez bon.
Tenez bon, ce que je peux vous proposer, c'est que...
Je veux moi-même.
Ouais, bah oui, bah, j'imagine, oui.
Ce que je peux vous proposer, c'est qu'en antenne, je vous trouve quelqu'un sur le 91, parce que maintenant, nous avons...
Alors, ça c'est que je vais partout pour mon fils. Là, actuellement, je suis à l'hôpital Trousseau pour qu'il voit son pédopsychiatre. Je me déplace partout pour mon enfant. Il n'y a pas de souci. Je veux juste quelqu'un qui puisse l'accompagner, le comprendre.
Alors, ce que j'ai fait, Souéla, j'ai pris vos coordonnées. Je vais les communiquer à Mario et puis voilà, on vous rappellera après l'émission.
De la fin de l'émission.
S'il vous plaît, merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Bon courage, Souéla.
Merci, Souéla.
Merci, au revoir.
Alors, Nadia est avec nous au 01 53 48 3000. Nadia, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Nadia.
Bonjour. Donc moi, je vous appelle parce qu'en fait, voilà, j'ai fait une très très grosse dépression et je voulais savoir si ce protocole pouvait me convenir pour arrêter justement les antidépresseurs.
Alors, je dirais oui, ça peut vous convenir. Il faudrait savoir pourquoi vous avez fait une dépression. Ça vous...
On sait plus tard. J'ai eu un gros choc émotionnel.
Voilà.
D'accord. Moi, je suis toujours un peu gêné quand on dit à quelqu'un qu'il pourrait arrêter les médicaments.
Non. On n'est pas médecin.
Surtout pour ce qui concerne la dépression. Hein.
Ni la dépression, ni pour la Rétaline, ni pour
quoi que ce soit.
Rien. On n'arrête jamais.
Il faut comprendre ça. C'est très clair. Hein. Ça ne se substitue pas au.
Il faut le dire. C'est que le médecin qui a prescrit un médicament qui peut l'enlever. C'est pas nous. Nous ne sommes pas des médecins. Ça, c'est une chose qu'il faut que ce soit très clair. On ne sent pas.
Mais alors, qu'est-ce qu'on peut gagner en cas de dépression sévère, par exemple, avec le neurofeedback, est-ce que c'est indiqué ou pas du tout?
C'est tout à fait indiqué, mais je dirais qu'il y a autre chose aussi qui peut être indiqué pour certaines dépressions, pour des chocs traumatiques, c'est le NDR.
Oui.
Donc, le neurofeedback,
le NDR. J'en ai fait, mais ça n'a rien donné. J'ai même fait aussi de la stimulation.
Oui.
Et j'ai pas eu de retour.
Alors, Nadia, Mario, s'il vous plaît, vous expliquez pour tout le monde ce que c'est que le MDR.
Oui.
Oui, alors, bah, ça, c'est alors, plutôt les lacs.
Alors, le MDR, c'est un sigle en anglais qui veut dire Eyes Movement Desensitization Reprocessing. Donc, ça veut dire la restructuration, la reprogrammation au niveau du cerveau à travers les mouvements oculaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les yeux, on va schématiquement, je vais vulgariser un petit peu pour que tout le monde puisse comprendre. Les yeux sont comme les terminaisons nerveuses du cerveau, d'accord? Donc terminaisons nerveuses du cerveau, ça veut dire selon le mouvement qu'on va faire, donc il y a certains segments, on va aller retrouver en fait des images, on va retrouver des événements traumatiques, notamment donc des images ou des sons, puisque le cerveau travaille avec des images, des sons et avec nos sensations, d'accord? Et en retrouvant ça, on retrouve un peu l'origine du trauma et on aide en fait la personne à restructurer et à retrouver en fait déjà une désensibilisation par rapport au traumatisme. D'accord? Parce que ce qui pose problème, c'est que un traumatisme, c'est quoi? C'est une expérience de vie qui n'a pas été transformée en apprentissage. Le cerveau ne sait pas où il doit la mettre, dans quelle case, dans quel tiroir, dans quelle armoire, si vous me permettez la métaphore. Le MDR va aider, ou l'IMO, l'intégration par les mouvements oculaires, va aider en fait la personne à donner du sens à ce qui s'est passé, à calmer le cerveau émotionnel et donc du coup laisser de prendre une prise de recul par rapport à la situation. Donc là, le MDR pour vous, Nadia, même si ça a pas marché, je sais pas combien de séances vous avez fait.
4
séances.
C'est pas beaucoup.
D'accord. Alors après, ça dépend. Vous pouvez peut-être qu'on a travaillé avec vous que sur un trauma. Vous avez peut-être un trauma complexe et trouver en fait le premier, celui qui a enclenché en fait la chaîne de trauma. D'accord. Parce que généralement les autres traumas, quand c'est un trauma complexe, des traumas complexes qui viennent en fait s'accrocher au premier traumatisme. Notamment vous. Alors on peut coupler aussi l'hypnose parce qu'on travaille aussi avec l'hypnose ericksonienne pour retrouver l'origine, l'expérience de référence, là où j'ai appris à réagir. fuir ou être dans la tétanie ou dans ce qui se passe pour vous par rapport à la dépression. Et ensuite, le neurofeedback pourra venir ensuite, en complément, hein, bien sûr, venir remettre un peu d'ordre à tout ça et un peu restructurer.
Ce que je peux proposer, c'est effectivement, pour Nadia, c'est que si vous ne sentez pas très à l'aise avec le MDR pour l'instant, vous pouvez effectivement commencer des séances de neurofeedback qui vont vous ouvrir peut-être des portes pour qu'après le MDR puisse faire le travail pour lequel il est destiné.
D'accord.
Mais oui, n'hésitez pas à faire du neurofeedback, ça ne peut que vous aider.
Alors, j'aimerais qu'on dise, parce qu'avec Karima, c'est un de nos sujets dont on parle souvent hors antenne, qui peut pratiquer le MDR? Parce qu'il y a des catas parfois.
Oui, alors il y a beaucoup de catastrophes, notamment, je vais dire un peu dans notre communauté musulmane, parce qu'on on s'auto-proclame psychothérapeute alors qu'on a fait 10 jours de formation.
Ouais.
MDR, c'est verrouillé. Il n'y a que les médecins et les psychiatres qui peuvent pratiquer le MDR.
Ça, c'est clair pour tout le monde, parce qu'on a entendu des catas.
Exactement, gens, des personnes qui pratiquent cet outil alors qu'ils n'ont aucune formation ni en psychologie, ni en psychothérapie, ni d'avoir fait aussi une psychothérapie personnelle, parce que c'est important. D'accord ? Donc des gens qui s'autoproclament comme ça thérapeute et avec qui ils disent oui, venez, on va vous débarrasser de vos phobies, on va vous débarrasser de ceci ou de cela. Il ne faut pas oublier que quand on est dans un état, par exemple Nadia, la dépression, c'est le symptôme à quelque chose, c'est la réponse biologique à quelque chose qui s'est installé. Donc si on vient, on vous fait de l'EMDR juste comme ça, et moi je pense que c'est pour ça que ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a pas eu un travail de fond, de psychothérapie, déjà d'accueil empathique et peut-être même un peu de FT, de libération émotionnelle pour pouvoir ensuite donner du sens à ce qui se passe. Et notamment, donc ça ne marche pas. Ça veut dire quoi ? Qu'on a mis en place cette dépression pour maintenir en fait toute la structure psychique. Si on vient et qu'on enlève cette phobie ou qu'on enlève cette dépression, on fait tomber, la personne elle peut s'écrouler, c'est-à-dire la déstructurer ou elle décompense.
Voilà.
Donc si Nadia, et c'est le conseil que je vous donne si vous permettez, si vous êtes encore dans cette dépression, c'est que c'est encore bon pour vous. Ça va être un peu bizarre ce que je dis là,
mais
pour
c'est,
vous,
c'est hyper important de
mais c'est bon pour vous, ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à l'origine de votre problème et à la source du problème pour pouvoir l'éradiquer. Donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est de vous dire ok, en quoi cette dépression est un bien pour moi, quelle est l'intention de cette dépression, qu'est-ce qu'elle m'apporte, quel est le bénéfice d'être dans cette, ça vous pouvez déjà le faire toute seule. Ensuite, de trouver le bon thérapeute qui va pouvoir vous accompagner, vous écouter. Commencez par simplement un Tipeee, une technique d'intégration des peurs inconscientes, par exemple, de l'EFT, de la libération émotionnelle. Et comme l'a dit Mario, commencez aussi avec ça. Vous allez voir, c'est pas brutal, c'est ça qui est bon, c'est que c'est pas des techniques qui sont brutales, c'est des techniques qui vont vraiment vous libérer, même si on entend que vous avez vraiment envie de sortir de là, donc votre motivation à aller mieux, tant mieux, on va travailler avec et l'utiliser, d'accord, mais on y va quand même tout en respectant la personne, ça c'est fondamental.
D'accord, mais il faut quand même trouver les bons psychothérapeutes.
Ah, oui,
alors, bah,
c'est
oui,
la base.
C'est la base. Bah, déjà, moi je le dis tout le temps, hein, quand je reçois pour la première séance, je dis toujours, ok, si ça passe entre nous, même moi personnellement, j'ai besoin de voir la brillance de la personne pour pouvoir l'accompagner, être vraiment disponible et mettre toutes mes compétences à son service, et que la personne aussi se sente bien aussi. Si vous vous sentez pas bien avec ce thérapeute, changez. Vous savez, vous avez le droit de choisir votre thérapeute. Hein. Vous avez le droit.
Et un de mes maîtres m'a toujours dit, on peut être un excellent thérapeute, mais on ne peut pas être le bon thérapeute de tout le monde.
Exactement. Voilà. Absolument.
Ça, c'est normal. Donc il faut trouver la bonne symbiose entre les deux.
Exactement. Voilà.
Se connecter sur les mêmes ondes.
Voilà. Ça vous aide, Nadia ? Ça vous aide, ce qu'on vous dit, là ?
Oui, tout à fait. Bon, comme je vous ai dit, j'ai fait de la stimulation. Oui. J'étais quand même dans un endroit médicalisé avec un psychiatre et des psychothérapeutes. Bon, peut-être que j'ai pas été assez loin, parce que c'est vrai que ça demande quand même un budget.
Oui.
Il faut pas oublier. Et voilà, donc moi, j'ai pas pu continuer à cause de cela.
D'accord.
Si c'est, pourquoi si c'est un psychiatre, c'est pris en charge, non? En général, le
psychiatre,
c'est pris en
charge.
Oui. Enfin, non, ça dépend où, parce que lui, non. Et en plus de ça, tout ce qui est, par exemple, pour la stimulation, pour l'OMDR, tout ça, c'était pas pris en charge.
Après, Nadia, il ne faut pas non plus hésiter, comme c'est des protocoles qui ne sont pas forcément pris en charge, à dire aux praticiens, voilà, je ne suis pas à l'aise financièrement, est-ce que vous pouvez m'aider là-dessus? Voilà. Nous, on le refeedback, on essaie toujours d'adapter au mieux, parce qu'il ne s'agit pas de mettre, comme on dit, quelqu'un sous la paille.
Hein. Exactement. Voilà.
Donc,
exactement.
Donc nous, on est attentifs, enfin, en tous les cas, nous, ici, on est attentifs à ce genre de problème. On sait que c'est quelque chose qui coûte cher.
Et même pour aider les gens, c'est ce qu'on fait. Nous, on s'inspire aussi beaucoup de la méthode Dolto. Hier soir, d'ailleurs, il y avait une belle émission sur Françoise Dolto, sur cette grande dame, paix à son âme. Et moi, en tout cas, je m'inspire beaucoup aussi d'elle. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle demandait, quand les enfants venaient la voir et qu'ils pouvaient pas payer pour les engager dans la thérapie, ils ramenaient quelque chose avec eux. C'était un petit caillou, un petit dessin, un bout de papier, et c'était juste magnifique, quoi. Donc là, vous pouvez.
C'est important.
Voilà, c'est pas obligé que ce soit le donner de l'argent, mais donner quelque chose, voilà, en contrepartie par rapport à la thérapie, pour que la thérapie puisse fonctionner, parce que ça ne peut fonctionner que dans ce sens-là. Donc c'est pas obligatoirement
de l'argent.
C'est
pas parce que c'est gratuit que ça fonctionne.
Exactement. Et généralement, quand c'est gratuit, ça fonctionne pas.
Voilà.
Parce que la personne n'est pas engagée, elle ne donne pas quelque chose d'elle.
Faut qu'elle donne.
Voilà.
Bon, j'espère que Nadia, ça vous parle, ce qui vous a été dit, que ça vous aide. Merci pour votre appel et votre confiance. On prendra d'autres appels dans un instant, puisque vous êtes nombreux et nombreuses, nombreuses et nombreux d'ailleurs, plutôt dans l'ordre. 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et un éclairage ce matin sur une technique qui est encore assez timidement proposée en France, le neurofeedback. On en parle avec Karima Chadibaou, Leïla Tona qui est psychopraticienne et puis Mario Viana qui est praticien en neurofeedback. Il y a beaucoup de questions sur le neurofeedback. Je voudrais juste, avant de prendre des appels, qu'on revienne sur la maladie de Parkinson et Alzheimer que vous avez évoquée tout à l'heure. On sait que pour l'instant, les recherches en neurosciences n'ont pas beaucoup de résultats sur ces maladies. Alors, est-ce qu'on doit donner un espoir aux gens, ou qu'est-ce qu'on peut attendre sur ces maladies précises du neurofeedback?
Alors, sur la partie Alzheimer, parce que c'est pour moi la plus compliquée. La partie Alzheimer, on ne peut pas dire qu'on va revenir complètement en arrière. Par contre, on peut stopper la descente. Ce que j'appelle la descente aux enfers, c'est-à-dire que l'Alzheimer, il est de plus en plus mal. Ça, on peut le stopper. Maintenant, dire à quelqu'un, vous venez me voir parce que je vais vous faire revenir en arrière votre épouse ou votre mari, c'est mentir. Ça marche pas. Par contre, on stoppe. Le Parkinson, on peut revenir en arrière, on peut arrêter les tremblements.
D'accord.
Et j'ai le cas précis de deux de mes clients, dont un qui a été pris assez tôt, qui avait un problème donc de bras gauche et de jambe gauche, et qu'au bout de quelques séances, c'était complètement fini. Et l'autre personne, qui était un monsieur plus âgé, qui est arrivé déjà avec un état assez avancé, qui me dit maintenant, Mario, ce qui est bien avec moi, c'est que quand je fais, comme il dit, le test de l'assiette à soupe, je prends mon assiette à soupe dans la cuisine, je l'amène à la salle à manger, et ça ne tremble pas.
D'accord.
Voilà.
C'est validé, parce que là, on est quand même sur des pathologies qui sont graves, lourdes, et pour lesquelles il y a quand même, les familles sont vraiment... désespérés et cherchent des prises en charge et des solutions.
Je vous dis, pour l'Alzheimer, on ne revient pas en arrière. Ce qui a détruit, peut-être qu'on revient sur des petites choses. On a un client là à l'heure actuelle qui est à la troisième séance. Alors que c'est un monsieur qui est Alzheimer d'une façon dramatique, parce qu'en un an, il est devenu, il ne parle plus, il ne reconnaît plus les gens, il ne marche plus, enfin plus rien. Il est revenu à la troisième séance et il y a eu un moment de lucidité. Sa femme était très étonnée parce qu'il m'a dit bonjour avec un grand sourire. Et il m'a serré la main. Après, il est retombé dans
son mutisme.
Oui. Voilà.
D'accord.
Mais ce monsieur qui est arrivé la première fois avec trois dames qui le tenaient pour l'amener, à la troisième séance, son épouse le faisait marcher tout seul. Il marchait très mal. Attention, il n'abandonnait pas, hein, mais il arrivait à mettre un pied devant l'autre tout seul avec sa femme qui le soutenait. Et ça, c'était à la troisième séance. Vous voyez, ça avance. Alors, dire qu'il va se mettre à faire le 100 mètres, machin, non, il ne courra pas, c'est pas ça. Mais ça peut s'arrêter.
Mais ça peut apporter du confort, en fait. C'est par rapport à. Là, on a deux cas, les deux cas que tu cites, Mario. On n'a pas encore d'études. Il doit en avoir, peut-être, je ne sais pas. Hein. Peut-être que je m'avance d'études cliniques pour voir justement les chiffres et voir justement.
Qui valide, hein, moi je.
Voilà. Et qui valide, oui, oui, bien sûr, parce qu'on est toujours au stade expérimental. Hein. Maintenant, nous, ce qui nous vient au cabinet, les personnes qu'on voit, on va tester des choses. Moi, il y a des choses que j'ai testées avec l'EMDR qui ne donnait, ou avec les mouvements oculaires, parce que moi, je n'ai pas le droit de dire EMDR, je ne suis pas médecin. Donc, je dis les mouvements oculaires, l'intégration par les mouvements oculaires, d'accord ? De voir des résultats qu'on a, en fait, qu'on obtient et qu'on n'obtenait pas avec d'autres, je ne peux pas dire pour autant, sauf si je commence à rentrer dans le clinique et dans l'expérimental et dire voilà, j'ai des chiffres avec tous les clients que je reçois qui ont telle et telle problématique. On a commencé à le faire avec Leïla sur les traumas multicomplexes et les traumas multiples et complexes, d'accord, et les traumas simples. On avait un peu commencé à le faire avec la supervision d'un psychiatre et tout ça, mais bon, on n'a pas été au bout parce que c'est vrai que c'est waouh entre les chiffres, les machins, et ça demande énormément de travail. Maintenant, on a des études en Allemagne, aux États-Unis, qui justement nous montrent un peu la lumière, en fait, nous montrent un peu la voie. Maintenant, charge à nous, la France, de rentrer aussi dans ce domaine et pouvoir aider les gens atteints. Là, ce que tu dis, Mario, par rapport à la personne atteinte d'Alzheimer, moi, qui a un moment de lucidité avec un sourire et avec bonjour monsieur, alors qu'on n'attendait plus rien de lui, que la dégénérescence est arrivée à un niveau, un point culminant. Donc, c'est vraiment important, quoi, de se dire bon, il y a des choses qui sont possibles.
Alors Lila est à Toulouse au 01 53 48 3000. Lila, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour.
Bonjour Lila.
Bonjour Lila.
Je suis kinésithérapeute et je voulais intervenir par rapport au neurofeedback parce que je l'ai fait à mon fils qui avait un déficit. Il l'a toujours un petit peu parce qu'on a arrêté les séances malheureusement. Et donc c'est pour dire aux gens que ça existe ici, un petit peu dans la périphérie, à Fontsorbe. Et c'est des personnes qui sont agréables et vraiment ça a donné un résultat, un très bon résultat.
D'accord.
C'est comme, si je peux résumer, c'est comme annoncer un électroencéphalogramme avec des électrodes. Et c'est avec un ordinateur, il regarde la personne ou l'enfant, regarde quelque chose qui lui plaît, un film. Et ça fait travailler, ça stimule le cerveau dans la limite des ondes voulues. Et donc, c'est le même principe que le biofeedback qu'on utilise. Après l'accouchement, c'est la femme après l'accouchement, c'est-à-dire c'est elle qui régule ses contractions avec cette machine de biofeedback. C'est à peu près le même principe. Et on l'utilise aussi pour les déficiences motrices chez les enfants handicapés. Donc c'est le même principe, ils sont stimulés. Et ce sont eux-mêmes qui contrôlent leurs contractions. Et ça permet à des enfants sur le fauteuil roulant de se lever, et après plusieurs séances, de se lever en contrôlant eux-mêmes leurs contractions. Et ça les motive et ça leur donne de l'espoir et ça leur fait beaucoup de bien aussi moralement.
D'accord. Mais là, les enfants sont acteurs, hein. Ils ne sont pas passifs comme dans le neurofeedback.
Non, non, non. Ouais. Non, c'est du biofeedback.
C'est du biofeedback, oui.
Non, je parle du neurofeedback aussi.
Du neurofeedback que les enfants. Neurofeedback dynamique. Hein.
C'est-à-dire, dynamique.
J'ai oublié de préciser que c'est une autre forme de biofeedback, si vous voulez.
D'accord, une autre forme de biofeedback.
Là, en octobre, il y a une personne qui vient de l'Allemagne. Mm-hmm. Et qui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup malheureusement qui pratiquent cette technique. Il vient une ou deux fois, il me paraît, par an. Il fait une session, des séances, il reste ici 2 jours, 10 jours, et il fait travailler les enfants dans ce centre-là à Fontsorbe, à côté des CPAS. Et il fait travailler les enfants handicapés avec cette technique qui est très très bonne. Donc voilà, c'était juste pour dire que sur Toulouse, ça existe à Fontsorbe, dans cette commune. Et les gens, ils sont très agréables et très gentils.
Super. Super. Très bien, merci de votre témoignage. Bah,
Lila a été kiné. Et donc, ça ferait plaisir de vous avoir pour faire une émission avec vous un jour, Lila.
Mm-hmm. Bah, oui, ça, j'aimerais bien. Mais d'ailleurs, vous voulez intervenir par rapport aux crampes, aux mollets le matin.
Ouais.
Et j'ai pas eu le temps parce que je suis tout le temps à courir à droite et à gauche avec mes domiciles le matin. Et c'était juste vite fait, pour les crampes le matin, il faut soigner le dos. Parce que ça vient la plupart du temps du dos qui est très contracturé et c'est pas toujours un manque de magnésium ou de les crampes au mollet ou pied, il faut soigner le dos et les fesses.
Ça
parce que le nerf qui passe par les fesses et quand les fesses sont contracturées, sont très tendues, il y a plusieurs muscles qui rentrent en jeu. Il suffit juste de les descendre pour ne plus avoir ces crampes.
C'est quoi, Lila? Demain, on a une émission spéciale sur la hernie discale. Tiens, vous serez la bienvenue pour intervenir, parce que ça aussi, c'est quelque chose, finalement, qui est, on va dire, pas méconnu, mais qui est mal soigné.
Oui, oui, exactement. Moi, j'en vois tous les jours au cabinet. Et des fois, on peut éviter, la plupart des fois, on peut éviter l'opération.
L'opération.
Ouais, avec des simples techniques.
C'est le but de l'émission demain. En tout cas, merci de votre intervention, Lila.
Merci beaucoup, Lila.
Bon courage.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Alors, Swad est avec nous. Swad, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Oui, allô, bonjour Philippe, bonjour à tous. Voilà les docteurs qui sont avec vous.
Bonjour Swad.
Bonjour Swad. Bonjour Saïd.
Merci beaucoup. Moi, j'aimerais en fait vous poser une question par rapport au fait que le sommeil, ça fait des années et des années que je ne dors pas ou quoi, voilà. Et voilà, ça presque abîmé toute ma vie, quoi. Je suis une maman et tout ça. Et après, en fait, une séparation, un mariage qui était un petit peu, voilà, j'ai vu qu'un petit peu de violence, tout ce qui est venu. Et ça jouait sur mon sommeil. Et ça fait presque 10 ans, et plus 10 ans là maintenant que je ne dors pas. Et plus que ça, en fait, je lui ai précisé, si quand il y a les bruits, on a une maison d'un voisin et tout ça, que ça dure tous les jours. Ça aussi, ça joue sur mon sommeil énormément et ça me perturbe et j'arrive pas à m'endormir ou quoi. Et le lendemain matin, je dors le matin et j'arrive pas à travailler. Je dors une heure ou quoi, sinon j'arrive pas en fait du tout à parler normal. C'est mes neurones qui sont un petit peu déstabilisés, que j'arrive pas en fait à me concentrer, j'arrive pas même pas à trouver mes mots quoi. Des fois, les gens ils croient que je bug et je sais pas parler, mais c'est le sommeil.
Vous êtes basé où, Swad?
Sur Paris.
Vous êtes à Paris?
À Paris, d'accord.
Il y a plusieurs praticiens sur Paris, vous pouvez choisir, sans aucun problème. Je pense que ça peut vraiment vous aider, d'une part à déstresser, et d'autre part à faire abstraction de tout cette gêne environnante qui vous pourrit la vie, en fait.
Vous êtes traité comment aujourd'hui, actuellement, Swad?
Alors, je prends aucun médicament.
D'accord.
Moi, je suis tout ce qui est plante et tout ça.
D'accord.
Je suis adaptée à tout cela. Mais voilà, c'est tout. Mais sinon, je prends aucun médicament, jamais. Mais moi, ils m'ont proposé plusieurs fois, mais j'ai refusé. J'ai refusé jusqu'à maintenant.
Moi, je pense qu'il serait idéal pour vous de faire du neurofeedback avec un accompagnement psychothérapeutique.
Oui, parce que vous avez parlé de trauma, de violence, de choses quand même. Et il va falloir aller visiter un peu votre histoire pour vous libérer, justement. Parce que le neurofeedback va pouvoir vous aider dans le sens où peut-être apaiser un peu et réguler au niveau du stress et au niveau du cerveau pour qu'ensuite vous puissiez avoir la force et l'énergie nécessaire pour aller affronter un petit peu votre histoire et aller découvrir, en fait, et vous libérer de tout ça.
Et les deux sont complémentaires.
Ah oui, il faut les faire en même temps.
Et
oui, absolument.
L'idéal, c'est bien d'avoir les deux, de faire les deux.
Oui,
de toute façon.
Oui.
Bon, alors, on n'a pas pu prendre tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup d'appels qui veulent avoir un complément d'information. Mario, on rappelle où vous vous trouvez.
Donc, je suis à Gennevilliers.
D'accord.
Donc, dans le 92.
Et si on veut vous trouver, comment on fait?
Eh bien, vous m'appelez au 06 08 47 41 62 et je pourrai vous donner d'autres informations.
Alors, si vous donnez votre numéro de téléphone, il faut le redonner lentement parce que la personne n'est prévenue, personne n'est... Vous voyez, là, on sait que ça commence par 06, donc on prend la suite.
Voilà. 06 08 47 41 62. 62.
Voilà, puisqu'on a demandé beaucoup vos coordonnées en antenne. Ouais. Bon, merci à vous tous pour, en tout cas, de votre participation. On reviendra sur le neurofeedback pour voir les résultats que vous obtenez, ouais. Puisque vraiment, il y a vraiment beaucoup de questions. Merci à vous pour cette bonne matinée. Donc demain, qu'est-ce que vous voulez rajouter?
Non, je voulais vous dire merci.
Eh ben voilà, bah, merci de m'avoir dit merci. Ouais. Donc demain, on parlera bientôt. De la hernie discale. Ouais. À demain.
À demain, merci.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.